Bonjour, chers auditeurs de Radio Grand Ciel. Nous voilà à nouveau dans notre émission consacrée à l'art, l'histoire et l'iconographie chrétienne. Et nous allons parler aujourd'hui de l'ordre de Malte, un ordre militaire au service des malades et des blessés. Et nous aurons sans doute aussi l'occasion d'évoquer le souvenir d'une sainte, Fleur de Corbie, une sainte de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Pour aborder l'histoire de l'ordre de Malte, dont nous allons parler donc au cours de ces 30 minutes que durera cette émission, j'ai avec moi dans le studio Emmanuel Rousseau, que vous avez pu écouter dans une émission antérieure. Il est directeur des archives départementales d'Eure-et-Loire. Il connaît très bien l'histoire des archives, la paléographie. Nous avons parlé effectivement de ce sujet très intéressant. Et aujourd'hui, il va nous parler d'un ordre dont il fait partie, car je pourrais dire que vous êtes chevalier de justice dans l'ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte. Voilà un titre très long qu'il va falloir aussi expliquer. Donc bonjour Emmanuel Rousseau.
Bonjour madame, bonjour à tous.
Voilà, je vous donne peut-être tout de suite la parole pour que vous puissiez nous parler peut-être un peu de la genèse, de l'histoire de cet ordre qui est bien connu aujourd'hui encore et qui a effectué récemment une collecte justement au profit de...
Des lépreux, et puis des handicapés, et puis aussi des collectes pour, je dirais, des situations d'urgence, Haïti étant la plus récente. L'ordre de Saint-Jean de Jérusalem est, je crois qu'on peut le dire sans honte, la plus ancienne institution caritative qui existe au monde. Toute son histoire tient dans son titre. On dit l'ordre hospitalier. C'est-à-dire qu'il a été fondé avant les croisades, vers 1060, à Jérusalem, par un personnage qui s'appelle Gérard, dont l'origine est un peu incertaine. D'aucuns le voudraient français, d'autres le voudraient italien. Et Gérard a fondé ce qu'on appelait un hôpital au Moyen-Âge, c'est-à-dire un lieu où les pèlerins étaient accueillis pour se reposer et se remettre des fatigues du voyage. Donc vous imaginez bien que faire le voyage de la France à Jérusalem vers l'an 1000 était une chose absolument effrayante d'ailleurs.
On allait à pied sans doute à la mer Méditerranée.
Jusqu'à la mer et puis ensuite on prenait le bateau. Il fallait plusieurs semaines de bateau avec des aventures avec les pirates, des aventures avec les conditions météorologiques. Et donc il y avait beaucoup de pertes, si je puis me permettre d'employer cette expression. Le voyage était très long et très éprouvant. Il fallait plusieurs mois pour aller de la France à Jérusalem. Et donc, Gérard fonde un hôpital dans l'ombre d'un monastère bénédictin qui se trouvait à côté du sépulcre du Seigneur. Au moment des croisades, l'hôpital est maintenu ouvert et Gérard place cet hôpital dans la dépendance, non plus de ce monastère bénédictin, mais dans la dépendance des chanoines du Saint-Sépulcre, qui, je dirais, on le vend en poupe, et qui vont se charger de financer, au début, cet hôpital. Et en 1113, le pape Pascal II va prendre sous sa protection l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, c'est-à-dire qu'il va l'ériger vraiment en un ordre hospitalier. Très rapidement, il faut défendre la Terre Sainte. On crée l'ordre des Templiers, qui est un ordre militaire. On crée l'ordre teutonique, qui est en fait le rassemblement de religieux allemands qui vont défendre la Terre Sainte. Et les hospitaliers, eh bien, vont être chargés, eux aussi, d'assurer la défense de la Terre Sainte. Et donc, ils deviennent, cette fois-ci, un ordre hospitalier et militaire. Le deuxième composant de notre titre. Les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem vont notamment tenir le krach des chevaliers, le très célèbre krach des chevaliers qui aujourd'hui est en Syrie, et puis ils seront les derniers à quitter la Terre Sainte en 1291 en abandonnant Saint-Jean d'Acre, et à ce moment-là ils vont s'exiler à Chypre. Et à Chypre, à l'issue de l'existence des royaumes latins d'Orient, il y a beaucoup de monde, beaucoup trop de monde. Et donc les chevaliers vont utiliser les bateaux qui étaient à leur disposition pour se trouver une terre. Et au début du XIVe siècle, en 1335, je crois, ils vont atterrir à Rhodes, qui est tout proche de la côte de la Turquie. Et à Rhodes, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils construisent un hôpital, une infirmerie, comme on disait aussi à l'époque, pour accueillir tout malade qui se présente, qu'il soit juif, chrétien ou musulman. Et ça, c'est une constante dans l'histoire de l'ordre, d'accueillir toute personne dans le besoin qui se présente, sans distinction de religion ou d'origine. Et pour construire ces bâtiments, l'ordre s'appuie sur une puissance foncière qui est très importante, qui est située en Europe occidentale, en Eure-et-Loire par exemple. On avait des propriétés de l'ordre de Malte, il y avait notamment à Sours une commanderie de l'ordre de Malte, et le mot, il y a un village entre Chartres et Bonneval qui s'appelle le Temple. Eh bien ça nous rappelle la présence de ces ordres militaires en Eure-et-Loire. Et en 1312, quand l'ordre du Temple a été dissous par le pape Clément V à la demande du roi Philippe le Bel, eh bien toutes les propriétés foncières des Templiers sont passées aux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui étaient les seuls à être restés en Orient dans l'idée de reconquérir la Terre Sainte. Et donc, à Rhodes, les chevaliers vont fortifier l'île, vont construire un certain nombre d'édifices, une cathédrale bien entendu, et ils vont faire barrage à l'avancée des Turcs en Méditerranée, ou tenter de faire barrage à l'avancée des Turcs, puisque à plusieurs reprises les Turcs mettent le siège devant Rhodes, et une dernière fois ils vont mettre le siège en 1520 je crois, et là les chevaliers sont expulsés de l'île, mais leur résistance très opiniâtre fait que le sultan les laisse partir avec les honneurs de la guerre, et surtout leur permet d'emporter avec eux un certain nombre d'objets, de reliques très importantes et qui sont encore vénérées aujourd'hui dans l'ordre, notamment une icône de la Vierge Marie qui s'appelle l'icône de Notre-Dame de Filerme. Le mont Filerme est une montagne de l'île de Rhodes. Une relique de la vraie croix et une relique de Saint Jean-Baptiste, puisque l'ordre est placé sous le patronage de Saint Jean-Baptiste. À ce moment-là, deuxième errance en Méditerranée, entre 1520 et 1535, les chevaliers s'installent à Messine, puis à Nice, très très brièvement, et finalement en 1535, l'empereur Charles Quint leur donne l'île de Malte en pleine propriété, et aussi il leur donne à conquérir tout le littoral de la Libye. Et donc, très très brièvement, les chevaliers débarquent à Tripoli, où ils vont essayer de construire un fortin qui existe toujours, mais ils sont expulsés 2 ans après. Là, c'était une position absolument intenable. Et donc, à Malte, la première construction qui est réalisée, c'est ce qu'on appelle la Sacrée Infirmerie. Donc là, à nouveau, un hôpital.
On va poursuivre l'histoire après une petite pause musicale. Ce magnifique son des orgues d'Italie, nous allons continuer l'histoire de l'ordre de Malte avec Emmanuel Rousseau, à qui je donne la parole. Il venait d'installer dans son récit l'ordre sur l'île de Malte, qui a donné le nom à le plus connu aujourd'hui.
Voilà, le nom le plus courant. Donc nous étions ordre hospitalier, ordre militaire, ordre souverain, puisque possédant l'île de Malte en pleine propriété, et puis ordre souverain de Saint-Jean de Jérusalem, ça c'est notre fondation première, de Rhodes, et puis enfin de Malte. Alors à Malte, où nous nous installons au début des années 1530, eh bien, on construit d'abord une infirmerie, un hôpital, puis on va construire des fortifications, parce que Malte est située exactement au milieu de la Méditerranée. Et donc c'est un véritable verrou en Méditerranée, et les chevaliers se voient confier la mission non seulement de recevoir toujours des malades ou des personnes dans le besoin qui peuvent faire halte dans cette île où saint Paul avait débarqué, hein, lui-même en allant de Jérusalem à Rome, et les chevaliers vont aussi faire un peu la police des mers. Et la Méditerranée du XVIe siècle, elle voit des affrontements extrêmement importants entre les forces musulmanes qu'on appelle à l'époque barbaresques ou bien turques, et puis les forces chrétiennes.
Qui font quand même des incursions à la côte méditerranéenne et qui vont enlever des jeunes gens
pour les réduire en esclavage. Alors, les chevaliers de Malte font de même, font des razzias sur la côte du Maghreb. Ils assiègent à plusieurs reprises Alger, Tripoli, Oran. Hein, il y a des récits assez épiques comme ça de débarquement sur la côte du Maghreb pour y faire des expéditions punitives. Bon, c'est peut-être pas, la mission première de l'ordre qui garde fondamentalement cette idée d'hospitalité. Et les chevaliers participent à une très très grande bataille en 1570, qui est la bataille de Lépante. Hein, le 7 octobre 1570, les forces de Venise, les forces navales de Venise, commandées par Don Juan d'Autriche, arrêtent l'armada, du Grand Turc, et le pape Saint-Pie V, le 7 octobre, il voit une intervention divine, et il place à ce moment-là une très grande fête, qui est la fête du Rosaire, le 7 octobre, qui commémore cette victoire en Méditerranée. Tout au long du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, les chevaliers, qui pour une bonne part d'entre eux sont d'ailleurs d'origine française, hein, et d'origine
diverses,
mais essentiellement français. Il y a une très grosse majorité de Français, et les dirigeants de l'ordre qu'on appelle les grands maîtres sont pour la plupart des Français dans l'histoire de l'ordre. Ces chevaliers constituent aussi pour la France une véritable école navale. Nos plus grands amiraux de l'Ancien Régime ont été à l'école des chevaliers de Malte. Il faut penser à Tourville, à Duquesne, à De Grasse, au bailli de Suffren. Bref, tous les gens qui ont donné des noms aujourd'hui à des bâtiments de la Marine nationale, tous ces amiraux d'Ancien Régime ont été à l'école à Malte pour apprendre la navigation. À la fin du XVIIIe siècle, en 1798, le général Bonaparte, allant en Égypte, s'arrête à Malte. Alors, il va en Égypte pour empêcher les Anglais d'avoir le libre accès à l'Inde. Il fallait couper la route aux Anglais. Et donc, il s'arrête à Malte. Et Malte s'ouvre à lui immédiatement, parce que dans les statuts de l'ordre, il était inscrit que nous ne pouvions pas combattre contre une autre nation chrétienne. Et voyant arriver des Français, tout révolutionnaires qu'ils étaient, le grand maître fait largement ouvrir les portes des arsenaux et des ports de l'île de Malte. Et à ce moment-là, les Français mettent pied à terre, c'est la révolution à Malte, l'ordre en est expulsé. Le grand maître Ferdinand de Hampesch, le dernier grand maître élu à Malte, part en exil. Il mourra misérable à Montpellier. Il a été enterré dans une fosse commune. Et à ce moment-là, le tsar Paul Ier de Russie décide de prendre la direction des choses. Et il s'autoproclame grand maître de l'ordre de Malte au début du XIXe siècle. L'ordre connaît une période assez troublée. Et une période extrêmement difficile, puisqu'il a perdu tous ses biens du fait de la Révolution française. Les chevaliers sont dispersés, l'ordre est interdit, et ne subsiste que grâce à quelques religieux qui sont en Italie ou bien dans l'Empire d'Autriche. Enfin, dans le Saint-Empire romain germanique encore à ce moment-là, puis dans l'Empire d'Autriche au début du XIXe siècle. L'ordre se reconstitue, va trouver un siège d'abord à Catane, en Sicile, puis s'installe au début du XIXe siècle, dans les années 1830, à Rome, où le pape lui apporte sa protection, mais où le pape reconnaît aussi sa souveraineté, c'est-à-dire que le chef de l'ordre est considéré comme un souverain sans territoire, ce qui est une chose extrêmement importante, et l'ordre va pouvoir à nouveau se reconstituer et reprendre, je dirais, ses activités essentielles, qui sont des activités caritatives et hospitalières, et non plus des activités militaires. Donc l'ordre participe par des œuvres de bienfaisance tout au long du XIXe siècle aux ambulances et aux soins donnés aux blessés de toutes les guerres qui déchirent le XIXe siècle. C'est un peu quelque chose qui est analogue à la Croix-Rouge. De ce fait. Et alors, il y a des événements extrêmement émouvants. Par exemple, la reine Élisabeth de Belgique était une dame de l'ordre de Malte et elle servait dans les ambulances de l'ordre de Malte pendant la Première Guerre mondiale, pendant que de l'autre côté du front, l'impératrice Zita, elle aussi dame de l'ordre de Malte, servait dans les ambulances de l'ordre de Malte en Autriche. Vous voyez, au-delà des frontières, je dirais que la charité et l'assistance aux blessés, aux malades, eh bien ça, c'est une des grandes choses, une des grandes réalisations de l'Ordre de Malte. Alors aujourd'hui, l'Ordre de Malte a toujours son siège à Rome. Il est considéré comme un ordre souverain par une centaine d'États, donc comme étant un pays. Et cet aspect souverain permet à l'Ordre de Malte d'être présent sur tous les grands fronts de l'urgence humanitaire à Haïti, mais aussi au Darfour. Nous avons été les premiers à être présents en Birmanie, quand il y a eu la dernière catastrophe humanitaire. Nous avons été très présents dans tous les conflits des Balkans. Et les œuvres de l'Ordre de Malte ne connaissent pas les religions, ne connaissent pas les origines ethniques et ne connaissent pas les origines sociales, ce qui fait qu'elles aident tout un chacun. Alors aujourd'hui en France, l'Ordre de Malte a des œuvres qui sont extrêmement dynamiques, qui s'occupent de vous solliciter pour les lépreux, pour les handicapés, puisque nous avons la responsabilité nous avons créé plutôt un pavillon à l'hôpital Saint-Louis dans les années 1920 pour soigner la lèpre. Et il y a encore en France aujourd'hui des cas de lèpre, ce qui est une chose très inquiétante d'ailleurs.
En France, effectivement, c'est sans doute pas très connu que la lèpre puisse encore faire son apparition sur notre continent.
C'est un signe de paupérisation que l'apparition de la lèpre et d'appauvrissement. Alors bon, il y a très peu de cas, mais il y a quelques cas qui apparaissent. Il y a aussi des maisons de l'Ordre de Malte qui accueillent des personnes handicapées ou bien des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Nous avons été parmi les premiers à avoir une maison. Et je vous parlerai peut-être après la pause des activités humanitaires.
Très volontiers, un peu de musique. La musique, elle est très belle, mais ce que nous dit Emmanuel Rousseau est fort intéressant. C'est pour ça que nous abrégeons un peu la pause musicale, car nous voudrions en parler après avoir entendu et abordé l'histoire de l'Ordre de Malte, peut-être parler un peu de son fonctionnement actuel. C'est un ordre qui fait perpétuer un peu la démocratie installée par l'Église, disions-nous, hors micro.
Oui, un peu comme une galéjade, mais l'ordre est un ordre religieux, d'où son nom d'ordre d'ailleurs, un ordre religieux de l'Église catholique. Donc il est constitué d'un certain nombre de moines, qui sont les chevaliers de justice, vous en parliez tout à l'heure. Et puis, il y a aussi des membres laïcs qui, eux, sont les plus nombreux parmi les membres, les 13 000 membres de l'ordre aujourd'hui. Donc, l'ordre est dirigé par un grand maître qui a rang de souverain dans plus d'une centaine d'États du monde aujourd'hui et qui est assisté dans le gouvernement de son ordre par ce qu'on appelle le souverain conseil, c'est-à-dire le conseil des ministres qui est constitué de 10 personnes. Il y a un ministre des Affaires sanitaires et sociales qui a, une importance extrêmement importante, une importance considérable plutôt, puisque compte tenu de la vocation de l'ordre, c'est lui qui pilote et qui coordonne toutes les actions humanitaires de l'ordre. Il y a aussi un ministre des Finances parce que le nerf de la guerre est très important. Et puis il y a aussi des services qui sont placés sous l'autorité d'un grand chancelier qui dirige la diplomatie de l'ordre, puisque nous sommes reconnus comme un État souverain, eh bien, nous avons des ambassadeurs qui, portent la bonne parole de l'ordre dans les États où nous sommes reconnus. Et ensuite, le grand maître est aussi assisté d'un chapitre général qui est une espèce d'assemblée nationale qui élit les ministres et qui, quand le grand maître meurt, le grand maître est élu à vie. Et à ce moment-là, ce qu'on appelle le conseil complet d'État élit le grand maître est en principe à la majorité des deux tiers. Donc ça, c'est un vieux principe démocratique qui ne nous vient pas des principes républicains, mais qui nous vient de l'histoire de l'Église. C'est l'Église qui a inventé tout le système électif et les majorités simples ou les majorités des deux tiers. Ça, il est bon de le rappeler.
Et en cas de litige, de toute façon, vous avez aussi des tribunaux.
Il y a même un tribunal d'État en cas de litige. Alors, tout à l'heure, j'avais terminé avant la pause en m'arrêtant à l'action internationale. La souveraineté, ça n'est pas qu'une affaire d'être un État. C'est surtout qu'elle nous donne beaucoup d'occasions de participer très activement, et je crois que l'ordre de Malte est reconnu au niveau international pour le sérieux de son action, pour le sérieux de l'utilisation qu'il fait des dons qui lui sont consentis, et que cette position souveraine permet d'avoir, des facilités pour l'action internationale. Nous sommes actuellement à Haïti, mais nous sommes aussi actuellement au Soudan, nous sommes au Myanmar. Et tout cela, c'est grâce à cette reconnaissance internationale. Alors l'ordre a des saints aussi qui vénèrent.
Oui, voilà, on voulait parler de cette sainte Fleur de Corbie. Vous allez nous expliquer pourquoi elle s'appelle tantôt Fleur de Corbie, tantôt Fleur de Morse.
Alors voilà, Sainte Fleur, qui est la seule sainte française de l'ordre. C'est pour ça que j'avais envie de vous en parler un tout petit peu cet après-midi. Et puis que nous avons fêté le 9e centenaire.
Oh, le 7e en 2009, c'était le 7e anniversaire. Et c'est à cette occasion-là que vous avez donné une conférence.
De sa naissance. Et j'ai été à Morse, dans le Cantal, aux confins du Cantal et du Lot, pour donner une conférence sur Sainte Fleur. Alors on l'appelle Sainte Fleur de Morse parce qu'elle est née à Morse, mais on l'appelle aussi Sainte Fleur de Corbie parce que ses parents étaient de la famille de Corbie, et nous, dans l'ordre de Malte, nous l'appelons Sainte Fleur de Beaulieu parce que Fleur était religieuse. Elle est entrée à l'âge de 14 ans à l'hôpital de Beaulieu du Quercy, qui se trouve aujourd'hui dans le Lot. Et la vie de Sainte Fleur est vraiment une vie hospitalière. Les dames de l'ordre de Malte avaient une activité caritative. L'hôpital de Beaulieu se trouvait entre Conques et Rocamadour, donc sur un chemin de pèlerinage. Sainte Fleur a aussi été très influencée par la spiritualité franciscaine. Elle a une vénération particulière pour la Passion du Christ. Elle est même presque stigmatisée. Elle a presque reçu les stigmates aussi. Elle a eu des visions et elle a fait des miracles. C'est une sainte qui a toujours été très vénérée à la fois localement et aussi dans l'ordre de Malte. Elle a une influence considérable sur la piété des chevaliers. C'était une femme extrêmement pieuse, une piété très simple, et elle incarne pour nous la piété des vierges. Nous avons deux autres saintes, l'une qui s'appelle Sainte Ubaldesca, qui illustre la piété des gens simples. Et la troisième s'appelle Sainte Toscana, et c'était une riche veuve qui vivait en Italie. Donc là, c'est plutôt la piété des veuves. Et donc, à travers ces trois femmes, pourtant dans un ordre très masculin, il y a pas du tout de... Je dirais que dans l'ordre de Malte, il y a très peu de femmes comparées au nombre d'hommes qui en font partie. Eh bien, je dirais que ça fait du bien dans la spiritualité d'avoir une femme comme exemple.
Alors, vous êtes combien ? Combien de membres sont actuellement
aujourd'hui
dans l'ordre ?
Il y a 13 000 membres.
13 000 membres
dans l'ordre de Malte
progression
à travers le monde.
Aux années 60, où vous étiez à peu près 9 000, si les chiffres
voilà.
qu'on trouve sont exacts. Et vous avez des dames de l'ordre, vous avez rappelé tout à l'heure que l'impératrice...
Il y a des dames laïques dans l'ordre, hein. Il y a des dames qui sont admises dans l'ordre depuis le 18e siècle. Alors nous avions aussi, comme je vous parlais de Sainte-Fleur à l'instant, des religieuses. Mais au moment de la Révolution, les religieuses ont été coupées de l'ordre, elles ont été confiées aux évêques des diocèses, et aujourd'hui, il n'y a plus de religieuses de l'ordre. Donc l'ordre est constitué d'environ 80 moines, ce qui lui donne son caractère d'ordre, et puis le reste des membres de l'ordre sont des laïcs, hein, qui sont de pieux laïcs. Il faut être catholique romain pour être admis dans l'ordre de Malte.
Alors, cette sainte a également... Elle est donc vénérée dans différents lieux, et à l'occasion de ces manifestations, à l'occasion du 700e anniversaire, les reliques avaient été prêtées par le diocèse de Cahors.
Oui, tout à fait. Le diocèse de Cahors avait accepté que les reliques de Sainte-Fleur viennent depuis Isandolus, là où elles sont conservées dans le Lot, jusqu'à Morse. Et puis malheureusement, par un concours de circonstances que je ne m'explique pas très bien, les reliques ne sont pas venues. Donc nous avons néanmoins pu vénérer les reliques de fleurs qui sont conservées à Morse, parce qu'elle avait été enterrée à l'hôpital de Beaulieu. Très rapidement après sa naissance, au ciel, oui, c'est ce à quoi je pensais, elle avait été déterrée pour être vénérée dans une châsse, et les révolutionnaires ont détruit la châsse de Sainte-Fleur, l'ont brûlée, et donc on ne conserve d'elle qu'un morceau de tibia, je crois, qui porte encore les traces du feu du bûcher dans lequel les révolutionnaires l'avaient jetée. Et le curé d'Isandolus au XIXe siècle avait donné au curé de Morse un morceau de l'os d'origine. C'est pour cela que à Morse, nous avons pu vénérer les reliques de Sainte-Fleur, bien que la plus grosse partie n'ait pas pu venir du Lot.
Donc on continue de vénérer de saintes reliques. C'est la fin presque de notre émission. Peut-être juste encore un mot concernant le blason de l'ordre de Malte.
Là aussi, c'est le plus ancien drapeau du monde. La croix blanche sur un fond rouge qui a inspiré d'autres drapeaux européens, le Danemark, la Suisse et la croix rouge elle-même.
Hein, donc, ce qui montre que l'ordre de Malte est sur tous les fronts, si on peut dire... Ainsi, donc il ne me reste plus qu'à vous remercier très chaleureusement, cher Emmanuel Rousseau. Chers auditeurs, à bientôt. Merci encore.
C'est moi qui vous remercie.
À très bientôt.
Au revoir.